Chapitre 5e. Tempête, naufrage, tremblement de terre. Et ce qui advint du docteur Pangloss de Candide et de l'anabaptiste Jacques. La moitié des passagers, affaiblis, expirant de ces angoisses inconcevables que le roulis d'un vaisseau porte dans les nerfs et dont toutes les humeurs du corps agitées en sens contraire, n'avaient pas même la force de s'inquiéter du danger. L'autre moitié jetait des cris et faisait des prières. Les voiles étaient déchirées, les mâts brisés, le vaisseau entr'ouvert. Travaillait qui pouvait, personne ne s'entendait, personne ne commandait. L'anabaptiste aidait un peu à la manœuvre. Il était sur le tillac. Un matelot furieux le frappe rudement et l'étend sur les planches. Mais d'un coup qu'il lui donna, il eut lui-même une si violente secousse qu'il tomba hors du vaisseau, la tête la première. Il restait suspendu et accroché à une partie de mât rompue. Le bon Jacques court à son secours, l'aide à remonter, et de l'effort qu'il fit, il est précipité dans la mer à la vue du matelot qui le laissa périr, sans daigner seulement le regarder. Quand il approche, voit son bienfaiteur qui reparaît un moment, et qui est englouti pour jamais. Il veut se jeter après lui dans la mer. Le philosophe Pangloss l'en empêche, en lui prouvant que la rade de Lisbonne avait été formée exprès pour que cet anabaptiste s'y noyât. Tant qu'il le prouvait a priori. Le vaisseau s'entr'ouvre, tout périt à la réserve de Pangloss, de Candide, et de ce brutal de matelot qui avait noyé le vertueux anabaptiste. Le coquin nagea heureusement jusqu'au rivage où Pangloss et Candide furent portés sur une planche. Quand ils furent revenus un peu à eux, ils marchèrent vers Lisbonne. Il leur restait quelque argent, avec lequel ils espéraient se sauver de la faim pour avoir échappé à la tempête. À peine ont-ils mis le pied dans la ville en pleurant la mort de leur bienfaiteur, qu'ils sentent la terre trembler sous leurs pas. La mer se lève en bouillonnant dans le port et brise les vaisseaux qui sont à l'ancre. Des tourbillons de flammes et de cendres couvrent les rues et les places publiques. Les maisons s'écroulent, les toits sont renversés sur les fondements. Les fondements se dispersent. 30 000 habitants de tout âge et de tout sexe sont écrasés sous des ruines. Le matelot dit en sifflant et en jurant, il y aura quelque chose à gagner ici. Quelle peut être la raison suffisante de ce phénomène? Se disait Pangloss. Voici le dernier jour du monde! S'écria Candide. Le matelot court incontinent au milieu des débris, affronte la mort pour trouver de l'argent, en trouve, s'en empare, s'enivre, et ayant cuvé son vin, achète les faveurs de la première fille de bonne volonté qu'il rencontre sur les ruines des maisons détruites, et au milieu des mourants et des morts. Pangloss le tirait cependant par la manche. « Mon ami, lui disait-il, ce n'est pas bien. Vous manquez à la raison universelle. Vous prenez mal votre temps. »«
C'est 200, répondit l'autre. Je suis matelot et né à Batavia. J'ai marché 4 fois sur le crucifix, donc 4 voyages au Japon. T'as bien trouvé ton homme avec ta raison universelle. »
Quelques éclats de pierre avaient blessé Candide. Il était étendu dans la rue et couvert de débris. Il disait à Pangloss, « Hélas ! Prends que moi un peu de vin et d'huile, je me meurs. » « Ce tremblement de terre n'était pas une chose nouvelle, » répondit Pangloss. « La ville de Lima éprouva les mêmes secousses en Amérique l'année passée. Même cause, même effet. Il y a certainement une traînée de soufre sous terre, depuis Lima jusqu'à Lisbonne. » « Rien n'est plus probable, » dit Candide.
« Mais pour Dieu, un peu d'huile et de vin !»«
Comment, probable ?» répliqua le philosophe. « Je soutiens que la chose est démontrée. »
Candide perdit connaissance et Pangloss lui apporta un peu d'eau d'une fontaine voisine. Le lendemain, ayant trouvé quelques provisions de bouche, en se glissant à travers les décombres, ils réparèrent un peu leurs forces. Ensuite, ils travaillèrent, comme les autres, à soulager les habitants, échappés à la mort. Quelques citoyens, secourus par eux, leur donnèrent un aussi bon dîner qu'on le pouvait dans un tel désastre. Il est vrai que le repas était triste. Les convives arrosaient leur pain de leurs larmes. Mais Pangloss les consola en les assurant que les choses ne pouvaient être autrement. « Car, dit-il, tout ceci, est-ce qu'il y a de mieux? Car s'il y a un volcan à Lisbonne, il ne pouvait être ailleurs. Car il est impossible que les choses ne soient pas où elles sont. Car... « tout est bien. » Un petit homme noir, familier de l'Inquisition, lequel était à côté de lui, prit poliment la parole et dit « Apparemment, monsieur ne croit pas au péché originel, car si tout est au mieux, il n'y a donc eu ni chute ni punition. »
« Je demande très humblement pardon à votre excellence, » répondit Pangloss encore plus poliment,
« car la chute de l'homme et la malédiction entraient nécessairement dans le meilleur des mondes possibles. »
« Monsieur ne croit donc pas à la liberté ?» dit le familier.
« Votre excellence m'excusera, » dit Pangloss. « La liberté peut substituer avec la nécessité absolue, car il était nécessaire que nous fussions libres, car enfin, la volonté déterminée... »
Pangloss était au milieu de sa phrase, quand le familier fit un signe de tête à son estafier qui lui servait à boire du vin de Porto ou d'Oporto.